je l'esquissais la dernière fois, la réponse de Kant. Et même en la résumant, ça nous servira pour l'avenir de nos analyses sur Foucault. La réponse de Kant, ce sera oui. Il faut un tiers élément. Il faut un troisième. Et non seulement il faut un troisième pour mettre en rapport le sans-rapport, c'est-à-dire l'espace-temps et le « je pense », la réceptivité et la spontanéité. Mais il faut que ce troisième soit sans forme. Un élément informel, un obscur élément informel, qui d'un côté, c'est le grand mystère, serait homogène à l'intuition, à l'espace et au temps, et d'un autre côté serait homogène au « je pense », au concept. Alors, réceptivité et spontanéité seraient hétérogènes, mais voilà qu'il y aurait une tierce instance qui serait homogène pour son compte, à l'intuition, et homogène au « je pense ». Et c'est bizarre ça, quelle drôle d'instance. Kant nous dit que c'est le plus mystérieux de l'homme, et c'est l'imagination. Le plus mystérieux de l'homme, une instance qui est homogène à chacune des deux instances hétérogènes. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est arbitraire, c'est pas... Il veut dire une chose très simple. Écoutez encore. Il dit, le propre de l'imagination, c'est de schématiser. Et qu'est-ce que c'est qu'un schème? Eh bien voilà, un schème, c'est un drôle de truc. Un schème, c'est un ensemble de déterminations spatio-temporelles qui correspondent à un concept. Ensemble de déterminations spatio-temporelles qui correspondent à un concept. Exemple. Un triangle équilatéral, il a un concept. C'est un triangle qui a trois côtés. Trois angles égaux. Bon. Ou un triangle rectangle. C'est un concept. Un triangle qui a un angle droit. Qu'est-ce que c'est que le schème? Le schème, c'est la règle de construction. Comment vous construisez un triangle rectangle? Je vois bien, il y en a qui ont un franc sourire, je dis cela, ils savent. Et puis il y en a qui prennent l'air abstrait, gêné. Je dis cela, ils ont oublié. Alors, je ne vais pas vous supprimer la surprise, hein, vous vous reporterez à vos manuels ordinaires de géométrie. Mais par exemple, pour construire un triangle ou un rectangle, il faut tracer un cercle. Hein, comment on trace? Qu'est-ce que c'est la règle de construction d'un cercle, hein? Je vous renvoie à votre manuel ordinaire. Ce sera le schème du cercle, la règle de construction du cercle. Bon, si vous tracez un cercle... Vous prenez le demi-cercle, construction du demi-cercle, comment on fait pour avoir un demi-cercle? Bon, tout ça, schème, renvoyant à des schèmes. Hein? Et puis, vous tracez votre triangle rectangle. La règle de construction, c'est ça. De même, un triangle équilatéral. Comment le construire? Là, ça se construit avec quoi? La règle et le compas. Règle et compas sont des instruments de construction. Hein, vous voyez, vous tracez un trait à la règle, vous prenez une extrémité du trait, de la ligne, vous agissez avec votre compas, vous faites quelque chose, vous voyez, bon, voilà, bien. Alors, ce sont des règles de construction, mais admirez ce que c'est qu'une règle de construction. Une règle de construction, c'est une règle qui construit l'objet d'un concept, l'objet, qui construit, qui produit l'objet d'un concept, où ? Dans l'espace et dans le temps. Eh bien, ça suffit, c'est formidable. Là encore, c'est une très très grande découverte kantienne, le schéma. Le schéma de l'imagination. C'est formidable comme notion. Donc, le schéma, il est d'une part homogène à l'espace et au temps, puisqu'il détermine l'espace et le temps. C'est une détermination d'espace et de temps. Vous me direz, le temps, il joue quoi là-dedans ? Ben, il suffit de prendre un schème comme celui de du nombre. Le schème du nombre, c'est quoi ? Le schème du nombre, c'est la règle d'après laquelle je peux toujours ajouter l'unité au nombre précédent. C'est le schème du nombre. Là, c'est un schème temporel. Donc, un schème est homogène à l'espace et au temps, puisqu'il détermine un espace-temps. Mais il détermine l'espace et le temps comme correspondant, comme conformément à un concept. Triangle équilatéral, nombre. Voyez ? Il est donc homogène à l'espace et au temps qu'il détermine, et homogène au concept dont il permet la construction de l'objet. Exercice pratique. Définition du lion, c'est le concept. Vous définissez le lion. On peut concevoir plusieurs définitions. Et quel est le schème du lion ? Voyez qu'un schème, ce n'est pas du tout une image. Si je dis une image de nombre, vous me direz 2 ou 300. Et le schème du nombre, ce n'est pas ça, c'est la règle de production de tout nombre. Si je vous dis image d'un triangle équilatéral, vous n'avez pas de difficulté, vous venez et vous tracez un triangle équilatéral. Enfin, vous n'avez pas de difficulté, je ne sais pas. Mais, vous en faites un, indépendamment de toute règle de construction, vous en faites un à peu près. Bon, mais ce n'est pas ça le schème. Le schème, ce n'est pas une image. C'est la règle de production de toute image comme correspondante au concept, ou comme conforme au concept. Alors le schème du lion, c'est pas un lion, une image de lion, c'est un lion, celui-ci. Ah oui, le lion que j'ai vu au cirque l'autre jour, que j'ai vu à la télé. Bon, mais c'est pas ça, un schème de lion. C'est bien mieux que ça, ça fait partie, en effet, des mystères de l'imagination. Un schème de lion, ce sera quoi, par exemple ? C'est toujours un dynamisme. C'est un dynamisme spatio-temporel. Vous pouvez rêver, là, vous pouvez rêver, rêvons. Quand vous avez un concept, là, un concept comme la vache, hein, comme le lion, quoi, la vache, hein. Qu'est-ce que c'est le schème de la vache ? C'est pas cette vache-là, non ? C'est une image, ça, cette vache-là, que vous connaissez particulièrement, c'est quoi ? C'est une image de vache. Mais le schème de vache, je vais vous dire ce que c'est, on peut varier, hein, le schème de vache, pour moi, c'est le puissant mouvement migrateur qui prend un troupeau quelconque de vaches dans une prairie à telle heure ou telle heure. Ah. C'est quand... Vous voyez, tout d'un coup, là, ces bêtes qui étaient complètement... qui broutaient, là, chacune, et pas un peu éparpillées, d'un coup, elle migre dans la prairie. Quel terrible 5 heures du soir, à 5 heures du soir. Les vaches migrent dans la prairie, dynamisme spatio-temporel. Vous savez ce que c'est que le schème du lion, c'est un coup de griffe. Alors, c'est un coup de griffe, ça c'est un dynamisme spatio-temporel. Ça ne fait pas partie de la définition conceptuelle du lion. Avoir des griffes, oui, ça fait partie de la définition conceptuelle du lion. Mais le dynamisme du geste, ce serait ça le schème. En d'autres termes, c'est une détermination spatio-temporelle comme correspondant à un concept. Or, il n'y a rien de plus paradoxal. Puisque l'espace-temps et le concept sont strictement irréductibles, comment peut-il y avoir des schèmes qui fassent correspondre les déterminations de l'espace et du temps à des concepts? C'est pourquoi Kant nous dit « le schématisme est l'art le plus mystérieux ». Bien, voyez, une troisième instance, les deux formes ne sont pas, réductibles l'une à l'autre. Les deux formes ne sont pas conformes, mais il y aurait une troisième instance qui, elle, pour son compte, serait conforme à l'une des deux formes et à l'autre des deux formes. La condition, c'est que, et là, Kant, il nous laisse, il ne peut pas aller plus loin. La condition, en effet, à mon avis, c'est que ça ne tient que si le schème est informel. Mais alors, s'il est informel, comment est-ce qu'il peut être conforme aux deux formes? Difficile, la réponse de Kant. Un art enfoui dans les profondeurs de l'imagination, enfoui. Il ne faut pas demander à un philosophe, quel que soit son génie, d'aller plus loin que quand on a fait déjà tant de routes que quand on a fait, quand on est pressé en plus par d'autres problèmes, etc. Qui n'a pas plus loin, non, c'est pas un manque. C'est à nous, si nous sommes conscients, essayer d'aller plus loin grâce à lui, puis voilà, c'est tout. Alors, est-ce que ce sera le cas de Foucault? Quelle sera la réponse de Foucault? On sait que sur ce point, on ne peut plus être conscient, puisque Kant ne peut dire rien de plus. Mais est-ce qu'il y aura, voilà exactement ma question pour plus tard, est-ce qu'il y aura chez Foucault quelque chose qui fonctionne même vaguement comme le schématisme de l'imagination chez Kant? Donc, puisqu'on ne peut pas pousser plus loin la confrontation avec Kant, je passe à la seconde confrontation, Blanchot. Et si l'on faisait une confrontation générale, sur quel point le rapprochement de Foucault avec Blanchot pourrait-il se faire? Quelle heure est-il? Bon, moi je crois qu'on pourrait grouper les thèmes de... On pourrait grouper les thèmes de rapprochement possible Foucault-Blanchot. Moi, j'en vois trois. J'en vois trois fondamentaux. Là, on le verra beaucoup plus tard, donc je ne peux que le citer. Parce que le second, on l'a vu au moins en partie, et le troisième, c'est lui sur lequel on va essayer d'insister. Mais donc, c'est là que je les groupe tous les trois, à savoir... une certaine, je ne peux même pas dire conception, mais un certain appel au dehors. Le dehors. Le dehors comme notion fondamentale pour Blanchot comme pour Foucault. Qu'est-ce que c'est que le dehors? Eh bien, cela couvre à la fois la critique de toute intériorité.
Excusez-moi.
En plus, il me frappe. La critique de toute intériorité et aussi le dehors ne se réduit pas mais dépasse l'extériorité. Car l'extériorité est encore une forme. Le dehors comme élément informel. Et Foucault fera hommage à Blanchot dans la revue Critique, dans un numéro consacré à Blanchot. Foucault fera un texte très beau qui est intitulé « La pensée du dehors ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la pensée qui vient du dehors par opposition à la pensée qui vient du dedans? La pensée du dehors, le thème du dehors, est un thème, je crois, très original chez Blanchot et que Foucault reprend à sa manière. Donc, on aura à voir, mais ça, c'est pour l'avenir, puisqu'on est loin d'en être là. La deuxième ressemblance, on l'a vu, c'est la promotion du « on » ou du « il », à savoir la critique commune chez les deux de tout personnalisme et de toute personnologie, même linguistique. On l'a vu, à savoir la dévalorisation du « je » au profit de la non-personne, c'est-à-dire de la troisième personne. Et au-delà de la troisième personne, au-delà même du « il », le « on ». Et chez Blanchot, non seulement il y a un « on parle », peut-être, on va voir, peut-être un « on voit », mais surtout il y a un « on meurt ». C'est dans l'espace littéraire que se développe le plus la ligne du « on meurt ». Et peut-être que cette ligne du « on meurt » si profonde chez Blanchot, non pas « je meurs », mais la mort comme événement du « on », peut-être est-ce qu'elle ne fait qu'un avec le problème que nous réservons pour l'avenir, c'est-à-dire le problème du dehors. Le « on meurt », c'est la mort qui vient du dehors. Bien. Chez Foucault, vous retrouverez, on l'a vu, au niveau même de la théorie de l'énoncé, comment la première et la seconde personne font place à une non-personne, c'est-à-dire la position du sujet comme variable de l'énoncé, irréductible à tout « je », et qui se présente toujours sous la forme d'un « il », tous les « il » prenant place dans le cortège d'un « on ». On parle. Et le « on meurt », vous le retrouverez aussi, mais très, très réinterprété par Foucault. Car je crois finalement, et c'est une des choses très tellement émouvantes dans la mort de Foucault, c'est que Foucault fait partie des hommes, et il n'y en a pas beaucoup, qui sont morts à peu près comme ils pensaient la mort. Il n'a pas cessé de beaucoup penser la mort, bien qu'il n'était pas triste, Foucault. Il avait avec la mort un rapport assez spécial, je crois qu'il était sa manière de penser la mort. Et très curieusement, il est mort comme il pensait la mort. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que dans Naissance de la clinique, vous trouvez une assez longue analyse de Bichat, du docteur Bichat, médecin du 19e, très célèbre, et qui est célèbre précisément pour avoir fondé un nouveau rapport de la vie et de la mort, un nouveau rapport médical de la vie et de la mort. Bon, si vous lisez ces pages de Foucault dans Naissance de la clinique, il y a quelque chose qui est évident. C'est qu'il ne s'agit pas d'une simple analyse si ingénieuse et si brillante qu'elle soit. Il y a une espèce de tonalité affective dans ces pages de Foucault sur Bichat, qui, il me semble, quelque chose comme si là, Foucault nous disait indirectement, en prenant le biais d'une analyse de Bichat, quelque chose qui le concernait fondamentalement. Et si vous vous demandez qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans la manière dont Bichat concevait la mort, je crois qu'il y a quelque chose de nouveau, tellement nouveau, que Bichat est un penseur moderne très, très fondamental. c'est qu'il y avait une certaine conception qui traîne partout de la mort. C'est la mort comme instant indivisible et insécable. Je dirais que c'est la conception classique de la mort. La mort comme instant indivisible et insécable, avec lequel la vie se termine. Et vous retrouvez cette conception encore très très actuelle, c'est à ça que ben, je dirais, c'est ça. C'est un critère de l'homme classique. Au moment de la mort, quelque chose se produit, sans commune d'incommensurable. Cette conception classique, elle anime encore la phrase célèbre de Malraux, « La mort, c'est ce qui transforme la vie en destin. » Vous trouvez l'équivalent dans les conceptions antiques. Je prends un exemple dans les conceptions morales de l'Antiquité. Par exemple, lorsqu'on nous dit « Le sage sait bien que on ne peut pas dire « Je suis ou j'ai été heureux avant la mort. » C'est-à-dire la mort comme instant incommensurable peut changer la qualité d'une vie et peut changer rétroactivement la qualité d'une vie. Donc, la mort comme instant ultime, la mort comme limite. Je dirais ça, c'est la conception classique que vous trouvez chez les moralistes, mais également chez les médecins et chez les philosophes et tout le monde. Tout ça, c'est la conception classique. Beaucoup d'entre nous vivent dans cette conception classique. C'est intéressant de se demander comment chacun pense la mort. Foucault, pas du tout. Ou Bichat, pas du tout. Je crois que Bichat a deux nouveautés fondamentales. Bichat est célèbre pour la définition qu'il donne de la vie et qui ouvre son grand livre sur la vie et la mort, qui est un livre sublime. Cette définition de la vie, elle est célèbre dans l'histoire de la médecine, c'est la vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Cette définition, elle a l'air comme ça, bizarre. Pourquoi ? Elle a même l'air inutile, parce que complètement contradictoire. Une fois dit que la mort, c'est la non-vie, nous dit-on, mais au nom de la pensée classique. Le classique, l'homme classique, il ne peut pas comprendre la définition de Bichat. Pour une raison simple, c'est que la mort, c'est la non-vie. Définir la vie par l'ensemble des fonctions qui résistent à la non-vie, ça paraît pas raisonnable. Donc, la mort comme instant insécable et incommensurable empêche ou retire tout sens à la phrase de Bichat. Mais en fait, ça veut dire que Bichat n'est pas un homme classique. Car sur deux points, la formule de Bichat prend un sens effarant. À savoir, c'est l'affirmation, premier point, première originalité par rapport à la pensée classique, c'est l'affirmation que la mort est coextensive à la vie, qu'elle n'est pas un instant insécable, qu'elle n'est pas une limite de la vie, elle est coextensive à la vie. C'est ça que veut dire. Elle ne se confond pas avec la vie, mais elle est coextensive à la vie. La mort est une puissance coextensive à la vie. Vous n'avez pas d'effort à faire pour en déduire le « on » sans tout mélanger. Bichat dit pas « on meurt ». Mais si la mort est une puissance coextensive à la vie, on meurt. Et deuxième nouveauté de la pensée de Bichat. Dès lors, loin d'être un instant insécable, la mort est disséminée, pluralisée, multipliée dans la vie. Elle est à la fois coextensive à la vie et elle essaime dans la vie sous forme de mort partielle. Donc, la mort comme puissance coextensive à la vie, premier point. Deuxième point, les morts partielles, parcellaires et multiples, qui se continuent d'ailleurs après la grande mort. Puisque ce qu'on appelle la grande mort, ben la grande mort, c'est une mort légale. Et bien on n'en finit pas de mourir, tout comme on a commencé à mourir. Et si vous regardez ne serait-ce que la table des matières, faute de mieux, c'est déjà ça, du grand livre de Bichat, vous verrez qu'il est question de la mort cardiaque, la mort cérébrale, la mort pulmonaire et toutes sortes d'autres morts. Et c'est avec Bichat que commence ce thème de la mort multiple et partielle, ou des morts multiples et partielles. Bon, si je reviens à Foucault, je crois que Foucault est un homme qui pense la mort sur un mode non classique. Il pense la mort ou il vit la mort à la manière de Bichat. Et je crois qu'il est mort comme ça. Il est mort comme ça, ça veut dire quoi? Ce qui veut dire, il est mort sous la forme d'un « on meurt en prenant sa place », pour parler comme lui, en prenant sa place dans une espèce de cortège de la mort, en prenant sa place dans un « on meurt ». Et il est mort sur le mode des morts partielles, successives. Là donc, il y aurait, si vous voulez, tout un développement propre à Foucault, du thème commun avec Blanchot, et à sa manière à lui, et dans son style à lui, c'est-à-dire avec cette reprise de Bichat, et enfin la confrontation. Ça. Mais je passe au troisième point de confrontation avec Blanchot, qui est celui qui vient tout naturellement, au point où nous en sommes de notre analyse. Et je me réfère évidemment au grand texte, c'est partout dans Blanchot, mais le texte le plus décisif de Blanchot, dans l'entretien infini, le texte intitulé « Parler, ce n'est pas voir ».« Parler, ce n'est pas voir », puisque au point où nous en sommes, c'est exactement la difformité, c'est-à-dire l'hétérogénéité du visible et de l'énonçable, auquel répond la formule de Blanchot, de Foucault. Ce que nous voyons ne se loge pas dans ce que nous disons. Parler, ce n'est pas voir. Et je me dis, essayons, le texte de Blanchot est très beau, avec de grandes vertus poétiques, mais alors essayons, nous, en tant que non-poète, en tant qu'on fait de la numérotation, de mettre au point ce que veut dire Blanchot, parce que c'est très intéressant. Parler, ce n'est pas voir. Eh bien, là aussi, j'essaie de numéroter pour aller lentement. Petit a, qu'est-ce que ça veut dire parler, ce n'est pas voir? Ça veut dire évidemment une chose d'abord très simple. C'est que il n'y a pas lieu de parler de ce qu'on voit. Vous voyez, c'est un peu différent. Concrètement, il faut bien partir d'une base très concrète. Il n'y a pas lieu de parler de ce qu'on voit. Pourquoi? Parce que si je parle de ce que je vois, c'est du bavardage. C'est pas la peine. C'est pas que ce soit impossible. Vous voyez, c'est pire que ça. Je peux toujours parler de ce que je vois. Mais quel intérêt? Quel intérêt? À quoi ça sert, parler de ce qu'on voit? Puisqu'on le voit. Vous me direz, ah oui, mais l'autre ne le voit pas. À quoi je dis? Ah, très bien, ben, je ne demande pas plus. Car, si je peux parler de ce que je vois, sous la condition que je parle à quelqu'un qui, lui, ne voit pas, c'est que, loin de parler de ce que je vois, je parle de ce que l'autre ne voit pas. De toute manière, parler, c'est parler de ce que quelqu'un ne voit pas. C'est pas parler de ce que quelqu'un voit. Parce que si quelqu'un parlait de ce qu'il voyait, ou si je parlais de ce que quelqu'un voit, il suffirait de voir. Aucune raison de mobiliser la parole. Et en effet, si je parle pour dire... généralement, quand je parle, c'est pour dire « t'as vu ça ?» Sous-entendu, « tu l'as pas vu ?»« Oh, t'as vu le drôle de type ?» Ça veut dire « tu l'as pas vu ?» Ou alors, si je parle de cette machine-là, j'en parle à vous, hein, parce que vous voyez un notebook, moi. Moi, je dirais, ah, moi, j'ai un petit cercle rouge et bleu, là, sur cette connerie. Et là, est-ce qu'il y en a un? Je ne le vois pas, alors je parle de ce que je ne vois pas. Ah, elle va pas me répondre en me parlant de ce qu'elle voit, mais à moi qui ne vois pas. Bon, très bien, trop difficile, tout ça. Donc, à la limite. Si vous avez compris ça, parler, c'est parler de ce que quelqu'un ne voit pas relativement. Mais c'est un relatif qu'il faut élever à l'absolu. Dès lors, parler absolument, c'est parler de quelque chose qui n'est ni vu ni visible. Ah bon, parler, c'est parler de... En d'autres termes, parler, comme dit Blanchot très bien, n'est pas une vue, même une vue affranchie, c'est-à-dire même une vue généralisée, libérée des limitations de la vue. Parler, ce n'est pas une vue meilleure que la vue. Ce n'est pas une vue affranchie et libérée de ses conditions. Le langage n'est pas une vue corrigée. Donc, voyez, il faut dire que parler absolument, c'est parler de ce qui n'est absolument pas visible. Seul alors, et sous cette seule condition, le langage en vaut la peine. Deuxième proposition. Dès lors, lorsque nous disons « parler, ce n'est pas voir », nous définissons un exercice supérieur de la parole. Je pourrais définir, Blanchot le fait, j'essaie, c'est un libre commentaire de Blanchot que je vous propose. C'est, vous lirez le texte dans l'entretien infini, et vous pourrez très bien avoir un autre commentaire, je comprends. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Je veux dire, nous sommes forcés de distinguer deux exercices de la parole. L'un, je l'appellerais exercice empirique. Je parle, c'est même la plupart des... dans la journée. Faut bien que j'ai un exercice empirique de la parole. Je parle de ce que je vois en tant qu'un autre ne le voit pas. Et encore, si je suis très intelligent, sinon, les heures où je suis idiot, ben, je parle de ce que je vois à quelqu'un qui le voit aussi. Je suis à la télé, je dis, oh, les cow-boys arrivent. Je l'apprends à personne. Il est assez grand pour le voir aussi que les cow-boys arrivent. Alors ça, c'est l'exercice empirique. Mais l'exercice empirique, c'est en effet, je dis, oh, t'as vu, là, il pleut. Je suppose qu'il n'a rien vu. Très bien. Je parle donc à quelqu'un en lui disant quelque chose qu'il ne voit pas relativement. Donc, à ce niveau, l'exercice empirique de la parole, je parle de choses qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient aussi bien être vues. Ce que j'appelle exercice supérieur, c'est je parle de ce qui n'est pas visible. Ou si vous préférez, je parle de ce qui ne peut être que parlé. C'est une seconde proposition, parce que qu'est-ce que c'est ça? L'exercice supérieur de la parole naît lorsque la parole s'adresse à ce qui ne peut être que parlé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne peut être que parlé? On peut arrêter là tout de suite, dire non, très bien, mais si on essaie, pour Blanchot, il y a quelque chose qui ne peut être que parlé. Il y a même plein de choses qui ne peuvent être que parler. Sans doute la mort ne peut être que parler pour Blanchot. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est ce qui ne peut être que parler et qui définirait l'exercice supérieur de la parole? Remarquez, ça ne va pas nous arranger, à moins que ça nous arrange. C'est aussi bien quelque chose qui ne peut pas être parlé. Sous-entendu, ce qui ne peut être que parlé, c'est quelque chose qui ne peut pas être parlé du point de vue de l'usage empirique. Puisque ce qui ne peut être que parler ne peut être que parler. Mais l'usage empirique de la parole, c'est parler de ce qui peut être également vu. Ce qui ne peut être que parler, c'est ce qui se dérobe à tout usage empirique de la parole. Donc ce qui ne peut être que parler, c'est ce qui ne peut pas être parlé du point de vue de l'usage empirique. Ça va? C'est tout simple. Hein. Je veux dire, c'est comme mathématiques. Qu'est-ce qui ne peut pas, donc? Ce qui ne peut être que parlé du point de vue de l'exercice supérieur, c'est ce qui ne peut pas être parlé. En d'autres termes, qu'est-ce qui ne peut être que parlé du point de vue de l'exercice supérieur? La réponse de Blanchot, c'est toujours, c'est le silence. C'est ça, ce qui ne peut être que parlé, c'est le silence. C'est du pur Blanchot. Mais c'est beau, c'est très beau. Bon. En d'autres termes, ce qui ne peut être que parlé, c'est la limite propre de la parole. L'exercice supérieur d'une faculté se définit lorsque cette faculté prend pour objet sa propre limite. Ce qui ne peut être que parlé. Et dès lors, aussi bien, ce qui ne peut pas être parlé en public. Ouais, bien. Troisième proposition. Dès lors, on s'attend à ce que Blanchot vous dise exactement la même chose pour la vue. Car si parler, ce n'est pas voir, dans la mesure où parler, c'est parler de la limite de la parole. Parler de ce qui ne peut être que parlé. Pourquoi est-ce que, à première vue, il faudrait dire, et inversement, si parler ce n'est pas voir, voir ce n'est pas parler. C'est-à-dire, pour la vue aussi, il y aurait un exercice empirique. Ce serait voir ce qui peut être aussi bien autre chose. Par exemple, ce qui peut être aussi bien imaginer, ou rappeler, ou parler. Là, ce serait un exercice empirique. Et l'exercice supérieur de la vue, ce serait voir ce qui ne peut être que vu. Mais voir ce qui ne peut être que vu, c'est voir ce qui ne peut pas être vu du point de vue de l'exercice empirique, de la vision. Qu'est-ce qui ne peut pas être vu du point de vue de l'exercice empirique de la vision? La pure lumière. La lumière goethéenne. La lumière, je ne la vois que lorsqu'elle ricoche sur quelque chose. Mais la lumière indivisible, la pure lumière, je ne la vois pas, et c'est par là qu'elle est, ce qui ne peut être que vu. Ah bon ? Eh bien, voilà, très bien. En d'autres termes, de même que la parole trouve son objet supérieur dans ce qui ne peut être que parler, la vue trouverait son objet supérieur dans ce qui ne peut être que vu. Et bien voilà, tristesse, pourquoi Blanchot ne le dit-il pas? Pourquoi est-ce que Blanchot, là, il y a bien le symptôme d'une différence entre Foucault et Blanchot, pourquoi est-ce que Blanchot ne dit pas, à ma connaissance, et ne dira jamais, et inversement? Blanchot ne dira jamais, parler ce n'est pas voir, et inversement. Dans le texte que je vous ai déjà plusieurs fois cité, des mots et des choses, au contraire, Foucault dit, et inversement. Ce qu'on voit ne se loge pas dans ce qu'on dit, et inversement. Ce qu'on dit ne se loge pas dans ce qu'on voit. Il maintient les deux facultés, voir, parler, comme, à cet égard, égales. Et inversement. Blanchot ne le dit pas. Est-ce que c'est parce qu'il ne parle pas de la vue? Si, il parle de la vue. Il parle de la vue en deux endroits. Du coup, ça devient plus mystérieux en apparence. Il parle de la vue dans ce texte de l'entretien infini. Parler, ce n'est pas voir. Et il en avait parlé dans un autre texte, l'espace littéraire, dans les appendices ou les annexes de l'espace littéraire, sous un titre qui nous convient d'avance. Deux versions de l'imaginaire. Deux versions de l'imaginaire, au point où nous en sommes, nous pouvons nous attendre, si tout va bien, à ce que l'une corresponde à l'exercice empirique de la vue, l'autre à l'exercice supérieur de la vue. Je prends les deux textes. Le texte de l'espace littéraire nous dit, il faut distinguer deux images. L'une, la première image, c'est l'image qui ressemble à l'objet et qui vient après. Pour former l'image, il faut avoir perçu l'objet. C'est l'image à la ressemblance. C'est l'image, donc, qui ressemble à l'objet et qui vient après. L'autre, je simplifie, parce que ce serait trop long sinon, mais je crois d'ailleurs que cette simplification est exacte à la lettre, bien que Blanchot ne s'exprime pas ainsi. L'autre, je reprends une expression chrétienne, chère au christianisme, l'autre, c'est l'image sans ressemblance. Cette idée qui me paraît prodigieuse pour une théorie de l'imagination chrétienne, à savoir avec le péché. L'homme est resté à l'image de Dieu, mais il a perdu la ressemblance. L'image a perdu la ressemblance. L'image sans ressemblance. Et cette image sans ressemblance, c'est peut-être parce qu'elle est plus vraie que l'objet. Là, je rejoins le texte de Blanchot. Elle est plus vraie que l'objet. Et Blanchot, dans une page très étonnante, dit « c'est le cadavre ». C'est le cadavre qui est plus vrai que moi-même. Mon cadavre plus vrai que moi-même. Au point que ceux qui me pleurent disent comme ils se ressentent. Comme la mort l'a figé dans une attitude. Non plus le cadavre, c'est pas le cadavre qui ressemble au vivant que j'ai été, c'est le vivant que j'ai été, qui est à la ressemblance du magnifique cadavre que je suis. L'image sans ressemblance a surgi. En mourant, je me suis lavé de la ressemblance. Je suis pure image, pur cadavre. Bon. C'est la manière dont Blanchot pense. Hein. Voilà, c'est les deux versions de l'imaginaire. Je simplifie beaucoup. Voyez vous-même le texte. Très beau. Dans l'entretien infini, vous retrouvez le même thème sur un autre mode. Deux versions de l'imaginaire. C'est quoi ? Ou plutôt, non, deux versions, non, là, c'est, non, je retire imaginaire. Dans le texte parler, ce n'est pas voir, c'est deux versions de la vue, du visible. De la vue et du visible. Première version. Je vois à distance. Je perçois à distance. Je saisis les choses, les objets, à distance. C'est bien connu, je ne commence pas par les saisir en moi, pour les projeter. Je saisis la chose là où elle est. La psychologie moderne nous l'a appris. Je perçois à distance, je saisis à distance. Et puis, nous dit Blanchot, il y a une autre visibilité. C'est lorsque c'est la distance qui me saisit. Je suis saisi par la distance. Selon lui, donc, être saisi par la distance, c'est le contraire de saisir à distance. Et selon lui, c'est le rêve. C'est le rêve qui me saisit par la distance. C'est ce qu'il appelle, lorsque je suis saisi par la distance, au lieu de saisir à distance, c'est ce que Blanchot appelle. La fascination. Je suis fasciné. Tu vois, c'est la même chose, être saisi par la distance, ou voir se lever l'image sans ressemblance. C'est pareil. L'art, le rêve, sont ces exercices de la vue. Alors, mon Dieu, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui empêche Blanchot de dire et inversement? Puisqu'il y a tous les éléments. Curieux. Et là-dessus, on est très étonnés, parce que faut que vous voyez le texte, si vous avez la même impression que moi. Il est à deux doigts de le dire, inversement. Et ben non, il ne le dit pas, il ne le dira pas. Il ne le dira pas parce qu'on garde notre méthode, parce qu'il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire parce que ça ruinerait tout ce qu'il pense. Pourquoi? Parce que s'il passe par l'exemple de voir, c'est pas du tout pour dresser un autre cas que parler, c'est uniquement pour confirmer ce qu'il vient de dire sur parler. À savoir, l'aventure du visible ne fait que préparer la véritable aventure qui doit être celle de la parole pour Blanchot. Si bien que l'idée qu'il y a aussi un exercice supérieur de la vue n'est là que comme degré préparatoire au seul exercice supérieur qui est la parole en tant qu'elle parle de ce qui ne peut être que parler, c'est-à-dire de